Et bonjour, une nouvelle émission de Et si on en parlait, il fait un froid de canard. Toujours la belle Léna à la technique. Et aujourd'hui, un invité étranger.
Une des mailles.
Non, je rigole. Que j'ai déjà reçu il y a quelques années, Jacques Itin.
Et oh, bonne
bonjour. Alors là, par contre, tu vas parler en français, tu peux?
Oui.
Voilà. Le patois. Est-ce que tu sais parler en français?
Le patois de Paris, comme dirait Jaurès.
Ah, c'était Loyle.
Non, oui, comme disait Jean Jaurès, le français est un patois qui a réussi par les armes et par la religion.
Ouais, mais enfin, je sais bien. Mais alors,
voilà.
On parle quand même français.
Oui, mais maintenant, quand l'article 2 de la Constitution, qui nous dit qu'il a fallu attendre 1993 pour que l'article 2 de la Constitution dise le français est la langue de la République. Hein? Quand on voit maintenant que, alors, c'était soi-disant contre l'anglais, quand on voit toutes les émissions qui se font en anglais sur toutes les chaînes de télévision, je vais pas les citer, quand on voit un candidat président de la République qui fait un discours, certainement pour la grandeur de la France, qui fait un discours en anglais pour montrer qu'il est dégourdi en Allemagne, je pense que c'est défendre la langue française.
Oui, tout à fait, je comprends. Mais c'est d'ailleurs pour ça que tu fais ton émission en occitan.
Et oh, passez ça dans Occitane.
Ça passe quand?
Eh bien, ça passe le mercredi, après toi. Voilà, de 8h à 9h. Et Tornomaï, le dimanche, de 10h à 11h, sur Villefranche et sur Rodez.
Très bien. Alors, on va un peu raviver les souvenirs, parce qu'il y a des gens qui n'écoutaient pas il y a 5 ans. Alors, tu es né où?
Ah, je suis né à Galgan, à côté de Montbazin, voilà.
Dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron.
Tu es pur Aveyronais?
Pur Aveyronais, non. Comme on dit, hier, où je suis catalan de sang, voilà. Je suis occitan de cœur et français de papier, puisque on parle
de cœur aussi, quand même.
Tu aimes
la France ou pas? Parce que l'Occitanie, ça fait partie de la France, quand même.
Ça dépend laquelle. Ça dépend comment. Il faut voir, justement, il a fallu attendre 8 siècles pour que l'Église catholique d'Ariège reconnaisse ce qui a été fait au Qatar. Je prends un exemple très précis. Il a fallu attendre 8 siècles. Alors, si c'est la France de Saint-Louis, où on nous disait que, soi-disant, il lavait les pieds des pauvres et qu'il venait exterminer tous les gens en Occitanie et, entre autres, à Morlion, c'est pas loin d'ici, hein, il y a une dizaine de Vaudois qui ont été brûlés sur le... Donc, alors, je vais prendre des raccourcis, si tu veux. Maintenant, on a en horreur les crimes nazis. Et à juste titre. À juste titre. Mais je schématise. Hein, peut-être ça va provoquer des gens. Ça va heurter des gens, je le conçois. Ça schématise. Mais ce qui a été fait au Qatar, aux Occitans de l'époque, c'était à peu près de la même veine.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Qatar alors?
Les Qatars...
Moi, je sais, mais il y a plein d'auditeurs qui ne savent absolument pas ce que c'est.
Les Qatars, c'était une religion qui était une religion chrétienne. Comme la chrétienne. Mais ce n'était pas dans le bon ton de l'époque, et ce n'était pas dans le bon ton du pape. Parce que les Qatars, c'était l'égalité des gens. Alors que la religion chrétienne, la religion catholique, tu sais, on était évêque, pas parce qu'on croyait à quelque chose, parce qu'on avait de l'argent, on pouvait acheter les charges. Même les papes, ils devenaient papes de père en fils.
Oui, tout à fait.
Donc, les Qatars...
Les papes, les sous-papes...
Voilà, et les Qatars, eux qui voulaient revenir à une religion, à la pauvreté, une religion originelle, entre autres avec la place de la femme. Entre autres, la place de la femme qui était... Et après, avec des idées complètement nouvelles. Le rôle de la jeunesse aussi. Alors que nous, à l'époque, nous, dans nos livres d'histoire, de Lavis, on parlait de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie. Charlemagne qui était un Germain, d'ailleurs. Alors, quand on parle de France, c'est pareil. À partir de quel moment, la France? Est-ce que Charlemagne était français? Parce que la France, on a décidé...
À ce niveau-là, c'est pareil pour l'Occitanie.
Non, l'Occitanie n'a jamais existé. L'Occitanie, c'est une ère linguistique culturelle officiellement, l'Occitanie, en tant qu'État, en tant que nation, n'a jamais existé.
Alors que la France, avant qu'il y ait tout ça, les gens y parlaient autrement. Je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, parce qu'à la création de l'homme, c'était tous des hommes des cavernes partout.
Absolument.
Donc c'est pareil. L'histoire, il ne faut pas la commencer non plus à un certain moment.
Non, mais je te ferai remarquer, puisque tu nous parles des hommes des cavernes, on ne va pas parler de l'homme africain qui a défrayé toutes les chroniques. Mmh. Je te ferai remarquer quand même que les périodes importantes de la préhistoire, ça s'est passé en Occitanie, avec les grottes de Lascaux, avec les grottes qu'on a découvertes maintenant dans la Drôme. Et si tu prends, on parle du Magdalénien, Kében de la Magdalène, dans, disons que, en gros, une partie importante, je ne dis pas tout, je ne ramène pas tout, s'est passé en Occitanie. C'est quand même intéressant de voir. Et par exemple, dans le Pays Basque aussi, avec la grotte d'Altamira. C'est intéressant. Et l'homme de Totavel aussi. Bon, et en Catalogne.
Je sais bien. Et enfin, on dit quand même que la mère de tous ces gens viennent d'Afrique bien avant ça. Quand même. Oui. Mais bon, pour l'Occitanie, alors, qui a décidé que c'était l'Occitan?
Mais justement, nous en revenons à ce que tu disais tout à l'heure. Il y avait à une époque, on se posait le problème, le roi de France, il fallait qu'il y ait deux rois, un roi de la France du Nord et un roi de la France, enfin de la France du Nord. C'est ce qu'on appelait, à juste titre, l'île de France, qu'on faisait pas grande cause. C'est pour ça qu'on appelait l'île de France. Donc, après, autour du 12e, 13e siècle, il faudrait que j'ai, mais je me trompe pas de beaucoup, 1250, c'est à partir de cette époque-là que les rois de France, pour des raisons administratives, ont appelé ça la lingua, et c'était écrit d'ailleurs en latin, puisque les choses se faisaient surtout en latin, la lingua occitane. Ça faisait comparé à la langue d'Ol. Alors non, on ne devrait pas appeler ça la France, puisqu'on appelle l'Occitanie, la France devrait s'appeler la Ouitanie. C'est intéressant. Il faut simplement se reposer, renverser les questions. C'est intéressant aussi de se mettre là où.
Alors, Ouitanie. Donc,
alors pour terminer, alors le terme Occitanie est utilisé pour les termes administratifs depuis le XIIe siècle par les rois de France, justement. Alors après, c'est tombé en désuétude et ça a été renouvelé. Lamartine a fait un sacré poème sur la belle Occitane. Lamartine, qui comprenait l'Occitan? Lamartine, et quand il y avait Jean Sémine, le poète d'Agen d'Aveyron, Agen du Lot-et-Garonne, le perruquier d'Aval, qui allait à la cour de Charles X ou de Louis-Philippe et qui déclamait ses vers en occitan et qui avait d'excellentes relations avec tous les romantiques et il se comprenait, même en occitan. Et c'était les bas. Après, il y a eu l'époque de Mistral.
D'accord. Donc, revenons à ta naissance. Tes parents, tu es encore, non?
Mais non, mes parents sont partis. Tu veux me parler de la langue de mes parents?
Non, pour savoir d'abord ce qu'ils faisaient.
Écoute, mon père, c'était un réfugié politique espagnol qui a fui, qui a connu les camps de concentration du Barcarès, de Rivesaltes et compagnie. Il faut voir, la France a accueilli les Espagnols, ce qui est vrai, les réfugiés. Mais il faut voir aussi dans quelles conditions. Et puis, ils étaient livrés pour les camps de travail, ils partaient au STO, ils partaient en Allemagne. Donc, mon père s'est évadé du wagon, comme des quantités de gens. Et il s'est retrouvé à Viviers, il est remonté à Galgan, et ils sont retrouvés avec des dizaines de réfugiés politiques qui ont travaillé dans les champs, ouvriers agricoles, brassiers, comme c'est dit.
D'accord. Ta maman?
Et ma maman, mes grands-parents maternels, c'est quand même intéressant, c'est pour ça que je dis que je suis catalan de sang. Mes grands-parents maternels sont rentrés après la guerre de 14, en 1920, à Viviers, ils arrivaient de Barcelone, Comme quoi, les choses évoluent au niveau des... C'est intéressant de voir l'évolution aussi. Ils sont arrivés de Barcelone. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, travaillait dans les mines. Il travaillait à la vieille montagne, avec le zinc et compagnie. Il s'est brûlé les poumons. À l'époque, il n'y avait pas tellement de soins. Donc, il a été métayé. Il est parti sur Galgan. C'est pour ça que, voilà. Donc, et après, mon père et ma mère se sont retrouvés à Galgan. Voilà.
D'accord. Tu m'as pas dit ce que faisait ta mère.
Ma maman, ben écoute, on était trois enfants dans les années 50.
C'était l'aîné ou
l'aîné ? Il y a aussi le Cazzoniu, c'est-à-dire le darrier de la Cloucaz, le petit dernier.
Le petit dernier, oui.
Le petit dernier, voilà. Et ma maman, quand on est venu à Villefranche, mon père après a travaillé à la Beaumap dans les années 60. Et ma maman est rentrée dans au magasin de chaussures chez Bessou, voilà, à Villefranche, là, où elle y est restée plus de 30 ans.
Tes parents parlaient catalan ?
Les choses sont très compliquées au niveau des langues, comme partout. Mon père, sa première langue quand il est arrivé, comme il parlait catalan, il a parlé directement occitan sans aucun problème. Hein. Ma grand-mère, elle, qui mélangeait l'occitan, le catalan, le français, mesclavo tout, qui c'était bon. Ma mère, bon, elle a parlé français, mais elle parlait occitan. Et puis nous, aux enfants, la langue de la famille, c'était l'occitan. Avec la famille en espagnol, c'était l'espagnol, parce que mon père a perdu le catalan. Enfin, il l'a perdu, il le comprenait, mais voilà. Et avec les voisins, c'était l'occitan.
L'occitan. Oh. Et le français, jamais.
Le français à l'école, oui. Et dans la famille, c'était la langue de la famille, le français.
Donc, c'est un peu voilà, pour ça quand parents. Même que tu t'es mis à l'occitan, quand même.
Ben, il y a des choses, ça ne s'explique pas. Pour moi, on est issu d'un terroir.
Mais comme on dit, le terroir, qu'est-ce c'est ding, ding.
Comme on dit, c'est, oui, mais c'est pas la grande couci s'appelle le groupe qui fait accord. Pink Floyd. Les Pink Floyd, si je les Flamands Roses.
Flamands Roses, tout à fait. Comment tu dis Flamands Roses en occitan?
Ah ben, l'oul flamand, voilà, l'oul flamand, les flamands, pensent que qu'on se dit, l'oul bécarut, parce qu'ils ont un long bec.
D'accord. Alors, on va écouter un premier morceau que tu as choisi, c'est Claude Marty, un monsieur que j'ai connu aussi, qui habitait à Coufflens.
Que c'est Fapatsou, oui.
Et qui interprète un morceau de Claude Nougaro.
Et oh.
Toulouse, mais là c'est un
Toulouse qui a remis Toulouse. Non, le Toulouse, le A final.
Se prononce
le A final, parce que là aussi, si je te fais lire ça, si j'écris, par exemple, j'ai des petites filles qui sont en Lorraine et elles appellent Momon. Elle dit Momon.
Oui, mais
bon, est-ce qu'on écrit Momon ou on écrit Maman?
Oui, non, mais
alors,
après, c'est l'accent.
Ce qu'on accepte pour la langue, ce qu'on dénigre à la langue occitane, on l'accepte pour la langue française. Ça pose problème quand même. Où est-ce qu'on voit écrit Momon? Et pourtant, le soi-disant français s'écrit comment il se prononce.
Okay. Oui. Eh bien, on écoute alors Claude Marty, Toulouse, alors.
Non, Toulouse.
Toulouse.
Ah ben, et l'accent tonique, Fantou, à qui t'avais, ça même pas. Toulouse.
Toulouse, allez.
Cantes-le, mon país. Cantes-le. De cops al fons veieu ser animal. L'obert del canal del Mietxur. El teu lat roge dels mínims. O mon país, o Toulouse, o Toulouse. Me'n torni pel camí de l'escola. Un cartable i sabat de cops de punt. Així és que en tustos que ganyos. Ai, sí, amai, lai, meninos, ai, mon, la, castanyo. mon pays, au Toulouse. Une touraine de Callao, rodo d'une tonne à Seine. T'atures et je bouillis d'un coup d'intai violettos. Un se trato de cul, al tan leu cun se spiecho. L'usis son de lausets d'un lucel e pa immens. La cleixo san serni illumino lucel. D'un flu de curat can lu sul el se pauso. Espeleu be bracu du queixos negresan. Esbeleu be bracu un te dis biloroso. Rementi tum babat o ma ciutat gascuno. Tre paldus strifats sus lus du del zelgas. Sarà l'Espagno en tu che te buto sa corna. O beleu dinta tripo sarà bulbo de jazz. Aquí lo capitoli y areste mon pas. Lui tenor en febrats si tenioni sus ventosos. Y entendí lo resu de la voz de papá. Fuguete en aquel ten un cantaire de blues. Al jour d'hui tous buildings bujon out. Tous avions bronzinon a Blagnac. Se mettono l'une sus aquel opilo. Esquir tu mare i bese mon pinsat de teules. Com un país o Toulouse. O Toulouse.
De Marty, il habite toujours à Coufoulens.
Oh, pensi qu'il est mort à Coufoulens.
Il était instit. Là,
il a été instit. Ça a été, hein, quand tu parles du terme, tout à l'heure, on parlait du terme d'Occitanie. Dans les années 70, c'est lui qui a rébisculé, ressuscité la chanson occitane qui a franchi les chansons traditionnelles, les airs traditionnels, pour parler des problèmes de l'époque, à partir des mineurs de Casville, par exemple, qui a été un mouvement très important, et du mouvement Boulem Biure al País. Biure et Travalia al País.
Ce qui veut dire, pour les gens qui ne parlent pas...
Je t'en prie, fais-nous la traduction.
Mais vivre au pays.
Bon. Et alors justement...
Je veux vivre.
Pour les gens qui nous font l'honneur d'écouter Passeja dos Occitanos, sur le Villefranchon de la semaine dernière aussi, il y a eu une émission autour des rencontres d'Occitan et de Casamance. C'est Aurélien Cher qui a fait un voyage d'études là d'ingénieur agronome et qui est parti pour aider les gens de Casamance pour des problèmes très actuels, c'est-à-dire pour que les jeunes de Casamance, au lieu de venir s'entasser dans les bateaux pour franchir la Méditerranée avec tous les problèmes que l'on connaît, il faut que ces gens-là puissent vivre et travailler au pays, vivre et travailler dans leur village. Alors, il y avait son maître de stage, qui s'appelle Baidi Jai, qui était là, qui a fait un voyage en France. Ils ont monté une association d'aide entre la France et le Sénégal. Et maintenant, il y a 400 jeunes, entre autres, qui sont restés sur le pays, dans le Fouladou. Je trouve que c'est une expérience quand même très intéressante. Et on s'est trouvé que « vivre et travailler al país », c'est le même slogan, vous voyez. Tu vois que j'utilise aussi des mots. C'est le même mot d'ordre, si tu veux, que ce qui est des problèmes très actuels qui se passent au Sénégal et dans tous les pays d'Afrique.
D'accord. J'en profite pour annoncer donc le 20, je crois, c'est le spectacle de Paco Ibañez à De Cazeville, invité plein. Par Memoria Andando. Ouais. Voilà, j'en profite.
Et bien, moi, chaque fois que j'entends Paco Ibañez, ça y est, la carte des galines, j'ai la chair de poule, parce que, avec tous ces. C'est un grand poète, et puis il chante les poètes du Chili, entre autres.
Et entre autres, Brassens aussi.
Et du Brassens.
Ce qui ne gâche pas. Alors, tu as fait tes études où ?
J'ai fait l'école primaire à Privesac. Et puis je suis arrivé au lycée à Villefranche. À l'époque, on faisait tout à ce qu'on appelle la Douve, là, maintenant, qui n'est même plus un lycée. C'était le collège, puis le lycée. Et j'ai inauguré la fameuse SUP, là, le lycée Raymond Savignac, maintenant. J'ai été la première classe de terminale à passer le bac à la SUP. C'était en 1969.
Et quelle option t'as pris, occitan?
À l'époque, t'es beau dire, Fantou. À l'époque, il y avait justement de l'occitan. Donc, j'ai pris occitan, mais j'ai fait des cours d'occitan où c'était comme du latin, où on prenait un texte, on le lisait, on le traduisait, on lisait, on traduisait. Pour moi, bon, et puis j'étais peut-être pas mûr, j'étais peut-être pas... pour moi, l'occitan, ce n'était pas ça, c'était une langue vive, et je n'ai pas, c'est très personnel, je n'ai pas continué, j'ai fait de l'occitan pendant un mois ou deux, et puis les choses sont arrivées. Tous les gens qui ont fait occitan, à l'époque, au bac, peut-être, ils se sont arrêtés. Et moi, j'ai continué. J'ai pris la voie, ouais, une autre voie. Après.
Effectivement, à une époque, il y avait tout un snobisme. C'était le retour à la campagne. C'était ci, c'était ça. C'était les bergers. Nana, c'est à l'époque de mai 68. Et moi, par exemple, quand j'étais à Toulouse, j'ai rencontré Renat Jurier, qui est mon ami, mais je sais pas ce qu'il devient. Il me parlait pas directement, il demandait un interprète à côté.
Oui, mais il y a des cas, c'est partout.
Mais c'est fini depuis longtemps, mais c'était toute une sorte de jeu de voilà.
Oui, bon, mais moi j'étais pas à Toulouse, moi j'étais à Villefranche. Oui,
c'est bien, ta capitale, c'était pas Toulouse. Moi c'était ma capitale, c'était Toulouse. Pas Paris.
Moi Paris ça a jamais été ma capitale. Un jour je change de capitale, ce sera Barcelone. Quand je descends à Barcelone, justement, je parle occitan à Barcelone, et se pregunten de que j'aquel català que baixo de sa montagne, que parlo en català molt estrany, mais que s'entinc. Quel est ce catalan qui descend de sa montagne, qui parle un catalan bizarre, mais que l'on comprend?
Bien sûr, tout à fait. Comme quoi, il n'y a pas d'occitan pur, en fait.
Ah, mais il n'y a aucune langue pure.
C'est tout un mélange de...
Ah, mais chaque fois, les langues, c'est une évolution. C'est une évolution. Quand tu parles, par exemple, dans l'anglais, quand tu as Richard Cœur de Lion, le prince noir, c'était un troubadour occitan. Sa mère, Aliénor d'Aquitaine, elle écrivait en occitan. Et à cette époque-là, il y a 3000 mots occitans qui sont directement passés en anglais. Par exemple, look at the cat.
Oui.
C'est passé directement. Maintenant, quand on déjeune, tu vas en Angleterre, les breakfast, là, pour déjeuner, on te fait les eggs, les eggs al bacon. Savez-ce que c'est le bacon, le bacou, quand on tuait le cochon, quand le cochon était débité, on portait le présent. On portait le présent, on le donnait au curé, on le donnait. Le présent, c'était le cadeau. C'est passé, c'est passé directement en anglais pour dire cadeau. Et le bacon, bon, enfin, essaye pas, mais tout à qui, c'était le cochon, la cochonaille. Bon, comme quoi, on peut faire l'émission là-dessus, si tu veux.
C'est pour dire qu'en fait, que quand on parle anglais, on parle un peu quand même français, on parle un peu occitan, on parle un peu catalan, Ben oui.
Il y a quand même des familles de langues.
Oui, il y a des
langues latines.
Il y a des ressemblances quand même.
Oui, au niveau des mots. Après,
El gato, the cat. Par exemple, le gâteau et cat entre espagnol et
oui,
et
mais anglais, tu en as pas beaucoup. Alors que si tu prends l'italien, le portugais, le roumain, l'occitan, le dalmate et puis d'autres, c'est le latin.
Les origines, c'est quand même le roumain. Donc.
Absolument. Enfin, voilà, la langue latine qui... les latins, ce sont la colonisation romaine. Hein. À l'époque, la retraite n'existait pas. Donc, les légionnaires romains qui parlaient, un peu comme la légion étrangère.
J'ai appris ça dans Astérix.
Un peu comme la légion étrangère française, à la limite. Les légionnaires romains arrivaient sur place et les chefs leur disaient, bon, on vous donne un territoire, comme ça, vous gérez
le territoire. C'est les Gallo-Romains.
Voilà, donc, ils avaient la retraite, c'était leur retraite, et puis, ils faisaient passer les idées romaines, ils faisaient passer, et la langue est arrivée comme ça. Mais enfin, on a aussi quand même des choses cocasses. Par exemple, et puis les Français rigolent. À l'époque du petit rapporteur, c'était très peu mon cul.
Oui.
Hein, mon
j'ai
cul.
Fait le tour de mon cul. Hein.
Alors, quand tu parles du gallo-romain, c'est pas tout à fait le gallo-romain. Alors, tu sais que quand les gens arrivaient, les envahisseurs arrivaient, les gens, les autochtones, se réfugiaient dans la montagne. Ils montaient. Et puis au bout d'un moment, las causas s'apaisaient, quand ça se régularisait, bon, les gens commençaient à descendre, les autres montaient un peu, et commençaient à parler. Bon, alors c'est pour ça, donc les Romains demandent aux Celtes, puisqu'il y avait des Celtes, ils disent comment s'appelle cette montagne. Et qu'aussi s'appelle quelle montagne. Donc, et les gens disent, qu'il passe qu'une cuc. Cuc, qui veut dire montagne en celte. On le retrouve dans truc, cumon, manque, voilà, suc, truc et compagnie. Mm-hmm. Voilà, donc c'est une racine celte. Donc ça a donné, ça fait montagne, montagne. Mm-hmm. Ce que tu appellerais, toi, un pléonasme, toi.
Tout à fait. Hein.
Voilà, n'est-ce pas?
Alors, est-ce que tu as eu ce bac?
Ben oui, que j'ai eu le bac.
Ce bac lettres,
je suppose. Le bac littéraire, oui.
Ça, j'étais sûr. Hein.
Oui, il me fallait 5 en anglais. Ma femme, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et j'ai eu 5, j'ai eu plus, j'ai eu 8 en anglais, puisque je suis allé à un oral à Rodez. Voilà.
D'accord. Mais donc, après, qu'est-ce que tu as fait après le bac?
Eh bien, après, comme je me suis occupé ça fait plus de 50 ans que je suis militant, je m'occupais du centre aéré de Laurière à partir dès l'âge de 15 ans. D'accord. J'avais 15 ans, donc je me suis intéressé aux enfants, et puis avec toute une troupelade autour de Robert Estival. À l'époque, les gens qui avaient le bac pouvaient devenir suppléants éventuels. Donc, d'accord, on avait un poste de suppléant éventuel, on était instituteur, suppléant éventuel, il fallait faire des journées pédagogiques, après de suppléant éventuel, on devenait remplaçant, au bout d'un an, si on faisait l'affaire, s'il n'y avait pas de problème, et ensuite, il fallait passer le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique, pour devenir instituteur.
Donc, c'était l'époque de Michel Petit.
Moi, je suis arrivé un peu. Michel Petit, il était arrivé. Il a 3 ou 4 ans de plus que moi. Voilà.
Petit,
oui. Mais oui.
Un
Michel.
Petit coucou à Lolo qui nous
voilà,
a quitté. Qui
justement.
Est quelque part par là.
Voilà.
Laurent Petit.
Et qui parlait occitan, avec qui je parlais occitan, qui en 4e avait monté des pièces avec Boris Lombard, qui avait monté qui faisait des émissions sur Radio Villefranche à l'époque.
Radio
Villefranche.
Radio Villefranche. Faisait... de CF.
Voilà.
Tout à fait. Allez, on va écouter un deuxième morceau. Donc, c'est un morceau de duo Artense.
Le duo Artense, c'est une région du Cantal où on dansait la bourrée. Et comme dans les Monédières, par exemple, et la bourrée qui était jouée, on la chantait soit à la voix, soit on la jouait au violon, puisque les gens, avant la guerre de 14, l'accordéon n'étant pas arrivé, les gens jouaient du violon, naturellement.
C'est l'ancêtre du violon
Pas encore, mais je vais le savoir.
Le rebec.
Ah oui, d'accord.
Tu connais pas?
Oui. Si, si, Lourévec, ah, ouais, oui, ça, c'est oui, oui, d'accord. Oui.
Et c'est rigolo parce que pour les guitaristes, par exemple, les tablatures qu'on voit maintenant, qui permettent de jouer sans connaître le solfège, ben, ça a été créé avant le solfège et c'était joué au rebec, entre autres. C'est beaucoup plus vieux la tablature que les notes.
Et alors pourquoi? Alors là, c'est le duo.
Dans le micro.
Oui, c'est le duo Capelle. Merci de me le dire.
Quand tu feras des émissions, Basile, tu sauras tout ça.
Oui, ça fait rien que depuis 82 que je fais des émissions. Mais faille pas tout si, Vondou. Bon, le duo Capelle-Bonin, Capelle à la. Le duo Musette, c'est accordéon-cabrette. Mais aussi, il peut y avoir accordéon-violon.
Comme Francis d'ailleurs. Oui. Francis Cabret.
Eh, oh, là, il plaque au négut. Capelle Bona. Et puis, une mazurka, parce qu'il y a des quantités de danse qui arrivaient d'ailleurs. La mazurka, c'était polonais. Mais elle arrivait, il fallait deux ou trois, une ou deux générations pour qu'elle rentre dans les mœurs. Et souvent, les mazurkas, entre autres, il y avait des paroles qui étaient plus ou moins grivoises. Par exemple, c'est l'ocurat que la couffe sa bo, s'appelle la bo, s'appelle la bo. L'ocurat que la couffe sa bo, s'appelle la bo, Pierrot. Bon, alors, on voit toutes les...
Pas qu'il y a une jeune fille, là, qui nous écoute.
Oui, mais la jeune fille, c'est quand même très, très convenable. Je peux t'enchanter peut-être de moins convenable. Et alors, la mazurka, qui est une danse très érotique c'est une danse superbe à danser.
Et oui, moi, quand je jouais avec Rosine, j'ai fait beaucoup de balles folk, comme balles occitan. Et comme le pas d'été du costaud de Subligny, tu connais toutes ces danses.
Non.
Voilà. Ben, c'était toutes ces danses. Et là, on écoute donc une mazurka du duo Artens.
Artens. Moi, je m'appelle Jacquitain, pas Jacquitain. Comme TT à la rampe.
Artens.
T-E, Artens.
Jacquitain.
Ah oui.
Là, tu t'es trompé.
Ah, mais qui me suis fait enganat. Ma mazenganat, Fantou.
Mazurka. Thank you. Voilà. C'était une mazurka du duo Artens.
Artens, Capel Bona. Non, pas Capel Bona, parce que Bona, c'est la cabrette avec Basile Brémond. Toi, le violoniste.
C'est-à-dire, il y a violoniste, pour moi, c'est violoniste qui joue avec le...
Avec les partitions.
Non, pas forcément. Le violon sous le menton. Parce que nous, moi, j'avais le violon appuyé sur la poitrine, joué comme les violonneux.
Les nœuds.
Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Alors, donc tu étais à Laurière, et jusqu'à quel moment?
À Laurière, j'y ai fait un certain temps, on y a fait des quantités.
Comme métier, quoi, t'étais instit?
Ah ben j'étais instit, alors instit, j'ai commencé à être remplaçant, suppléant éventuel, j'ai traîné dans le coin, je me suis occupé de foyers et socio-éducatifs, puisque j'étais en poste, j'étais à ce qu'on appelle détaché aux œuvres laïques. La première année, bon après
c'était
j'ai fait
un peu, tu bossais pas ex-atelier La Fontaine aussi.
Ah ben je suis en partie le créateur des ateliers, pas du foyer d'éducation populaire.
Foyer d'éducation populaire.
À l'époque c'était le pauvre Foucault, Daniel Foucault qui était le premier président. Et à l'époque, il y avait Bernard Antraigue, qui est plus des nôtres. Il y avait Serge Bourgade. C'était le premier noyau des ateliers.
Michel Petit après.
Et il y a Michel Petit, mais nous étions jeunes, et lui, il était plus ou moins responsable, puisqu'il était détaché aux œuvres laïques à Villefranche. Voilà.
Tout à fait.
Donc après j'ai continué, on a fait les candados à Orlionac, à Saint-Ginès-de-Bertrand, mais avec Michel Petit, Pierre Tournemire, et puis Bernard Antraigue, voilà. Et puis après, dans les années 75-80, après j'ai fait le Rial à Sainte-Afrique pendant un certain temps, enfin on tournait. Et puis j'ai arrêté de faire des candados et tout ça. Et je suis rentré, c'est là où je me suis intéressé davantage au mouvement occitan, où j'ai fait des écoles occitanes d'été, j'ai fait des universités occitanes d'été, et voilà.
Alors moi, je t'ai connu, mais on en avait déjà parlé, c'était à l'époque de l'IEO, l'Institut d'études occitanes, qui pour moi était quand même très, très raciste. Alors qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? Parce que moi, il y a un racisme occitan qui a fait que j'ai arrêté de jouer... occitan, parce que si t'étais pas occitan, c'était de la merde pour eux à une époque, et pour toi aussi.
Il ne faut pas généraliser non plus. Mais je te renverrai la question. Ça dépend de quel côté on se place. Le racisme français, il existe, et pour cause. Mais on n'en parle pas, et tu nous en parles pas là. Alors bon, à une époque, il y avait des gens qui étaient, parce qu'il fallait certainement. Mais moi, je l'ai pas connu ça. Moi, j'ai toujours vécu avec des gens ouverts. Il y a de tout. Après, même au sein du mouvement occitan, il y avait plusieurs branches. Bon, chacun avait ses idées.
Il y avait par exemple Nadao, qui l'os de Nadao à l'époque, qui n'aimait pas. Oui, qui n'aimait pas, je te dis tout à l'heure, Marcel Amont. Et pourtant, Marcel Amont parle le vrai. Pas toi, que c'est Nadal, c'est plus ce truc intello quand même.
Mais Marcel Amont, il était assimilé, si tu veux, au showbiz.
C'est le seul qui parlait vraiment.
Oui, Marcel Amont, il chantait les poètes gascons. Les grands poètes. Il chante Adi ou Plane de Bedouze aussi. Il chantait des choses.
Mais c'est
des
quand chances, même du vrai.
Le caporal Bartas. Et c'est comme dans le Limousin, celui qui avait signé dans le Périgord, là, Martial. Il fait les émissions avec Martial Peyrouni, là. Mais le nom m'escape.
Le chanteur,
oui.
Jean-Paul Verdier, mais j'allais t'en parler, justement.
Ah, mais tu vois,
il y a beaucoup de gens qui ont râlé parce qu'il s'est mis à chanter en français.
Oui, mais parce que il s'est mis à chanter en français. Non, il a continué à chanter en occitan. Il avait signé avec Philips.
Oui.
Donc, il y a eu une rupture. Et puis, il y avait des gens qui étaient aussi plus royalistes que le roi, qui avaient créé des éditions comme Bentadou ou tout ça, qui voulaient faire, qui faisaient la leçon à tout le monde. Et puis, il faut voir ce qu'ils ont fait par la suite. qui ont été pires que les autres, voilà. Et qui sont rentrés dans le showbiz, enfin, pas dans le showbiz ou d'une façon.
Mais voilà, bon, c'est pour moi, ça. J'ai connu, c'était pareil à l'époque, oui. Chez les Bretons, si tu veux, il y avait par exemple tous les mecs qui gueulaient. Moi, j'étais au festival où il y avait Alan Stivell, et tous les mecs l'insultaient parce qu'il avait signé chez Philips. Alors, pourtant, c'est un des premiers qui a fait connaître. Oui, donc, voilà, c'était un peu idiot. Et maintenant, c'est des puristes, on peut appeler.
Pour moi, c'est même pas puriste. Mais c'est des gens. Ce sont des choses à l'époque. Il y a des gens qui, des puristes. Oui, on peut appeler ça. C'est ce que tu appellerais l'intégrisme, puisque maintenant, bon, moi, au niveau, tu peux appeler. Bon, mais les gens, c'est des moments. Ce sont pas des façades. Ce sont des moments. Et puis les gens. Ont le droit d'évoluer aussi, justement. Et je pense que maintenant, les choses auront relativement évolué.
Eh ben, heureusement.
Voilà.
Parce qu'au bout d'un moment, si tout, à force que ces Occitans rejetaient tout le reste a rejeté ces Occitans-là. Et c'était de bonne guerre.
Oui, mais les choses, c'est plus compliqué.
Non, mais ça a bougé, ça a bougé. Tant mieux, heureusement. Est-ce que tu as connu Longamaille?
Non, je l'ai pas connu.
Moi, j'ai connu,
j'ai ça. Mais moi, je traînais pas dans les Longamaille, c'est en Provençal.
Oui.
Je connaissais Beltrame, Beltrame, et je connaissais.
Gendarme Elio, moi j'ai joué avec tous ces gens, Patrick.
Loumeyaou, ouais, c'est un personnage.
Rosine de Peyre,
c'est un personnage aussi, Loumeyaou. Dans le Limousin.
Le brise-pied, eh ben
justement,
t'as connu le brise-pied.
J'en profite pour dire que dans le cadre des Semaines Occitanes, là, il y a une exposition sur Marcel Delpastre, qui est une des plus grandes poétesses et écrivaines en occitan et en français, qui faisait des émissions sur Radio Limoges à l'époque. Et c'est une femme qui aurait pu devenir institutrice à l'époque. Bon, elle est née dans les années 20-30, à quelque chose de près, et qui a décidé de rester à la ferme. Donc, elle est restée à la ferme. Elle a repris la ferme de ses parents avec les bottes et compagnie. Mais à côté de ça, elle écrit des choses fabuleuses sur son pays. Et quand les éditions Payot ont repris ses textes en français et des textes en occitan. Enfin, voilà.
D'accord. Est-ce que tu as connu Maurice Andrieux?
Ah, Maurice Andrieux.
Moi, j'ai très bien connu parce que avec Rosine, on est passé à la télé. C'était.
Mais Maurice Andrieux, là, il plaque une aiguille parce qu'il était de Brandonnet.
Oui.
J'ai eu fait des émissions avec lui, et d'ailleurs, à l'époque, il y avait une colonie avéronaise qu'il y a toujours à FR3, puisque le successeur de Maurice Andrieux, on parlait tout à l'heure de Boris Lombard, qui a fait des émissions, qui a pris la suite de Maurice Andrieux sur les émissions en ondes courtes sur Toulouse, à l'époque, les émissions en occitan, et puis après, il y a eu Benoît Roux, qui fait les émissions en occitan. Maintenant, Benoît Roux du Moron de Malleville, et il y a Clément Allette aussi, qui a fait les émissions, qui maintenant est à Pau, et ce sont des gosses que, ben justement, Benoît Roux, c'est intéressant, si tu me fais parler de lui, je pense que ça devait être dans les années 75, où je commençais à parler occitan, à le parler, voilà. Et je leur apprenais des poèmes de Boudou, et Benoît a commencé à parler occitan à cette époque-là. Et lui, il avait la chance d'avoir des grands-parents qui le parlaient encore, et son père qui le lui parlait. Donc, il a une langue naturelle, il a récupéré une langue naturelle de la famille.
Très bien. Une autre question. Qui a tué Jaurès?
À qui, si on le savait, ben on parlait. Je pense que c'est.
On le sait qui a tué Jaurès.
Si, c'est l'intégrisme, justement. C'est la pensée, voilà.
La pensée. Je dis ça parce que tu as choisi après dans tes goûts Jacques Brel qui chante Jaurès.
Ben oui, dans mes goûts, bon, tu m'as demandé de faire.
Mais j'adore, non. Mais...
Non mais je vais pas dire non. Mais Jaurès aussi, c'est par rapport à mes goûts et par rapport à ce que représentait Jaurès.
Carmo, c'était aussi.
Par rapport à ce qu'il représente officiellement, hein, Jaurès était d'abord un philosophe. Justement, à l'école, on a appris Bergson, qui est un grand philosophe.
Ouais.
Mais au concours général, Bergson, le premier était le concours général de philosophie. Le premier était un illustre inconnu dont on n'a jamais entendu parler, on n'a plus entendu parler. Le second était Jean Jaurès et le troisième était Bergson.
C'est
quand même intéressant.
Tout à fait.
Bon.
Après, Jaurès était un homme du pays, même si c'était un bourgeois, qui n'a pas renié la langue de son pays et qui faisait ses discours en occitan. Il commençait, bon, pour montrer qu'il était quand même... Il commençait tous ses discours en occitan et il les continuait en français. Et on connaît quand même, Jaurès, il avait des choses à dire, et c'était important. Mais ça, les Français, on ne l'a jamais dit. Dans l'histoire, même, c'est pas si loin que ça. Dans l'histoire officielle, on n'a jamais dit que Jaurès faisait ses discours en occitan. On ne nous a jamais dit, il a fallu attendre les années 80 pour que l'occitan rentre un peu à l'école, même s'il y a eu la loi d'Exon en 56, je pense. C'était du saupoudrage, hein. Bon. Jaurès, dès 1905, écrivait dans la Dépêche du Midi tout l'intérêt pour les enfants d'apprendre leur langue régionale. 1905, c'est quand même pas d'hier. Alors quand on voit tous les gens qui nous tiennent des raisonnements maintenant et qui se disent disciples de Jaurès, ça oui, pose. Bah, ça pose problème.
Ouais, là, c'est gauche,
je parle par rapport à la langue.
Oui, non, mais je comprends. Hein?
Par rapport à la langue.
Mais parce que par rapport à la politique, maintenant, ils sont tous.
Et j'en reviens à tous ces disciples de Jaurès qui ont voté, justement, il a fallu attendre 1993 pour qu'on ait l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République. Et il y avait un député à Véronée qui s'appelle Jean Briane, un homme qui parle occitan, qui est en Bécal parli touloutain occitan, et Jean Briane qui, à l'instigation des associations occitanes, avait fait un amendement en disant le français est la langue de la République, cela va de soi, dans le respect des langues régionales. Voilà.
Allez, on se dépêche parce qu'il y a déjà 47 minutes.
Mais je t'en prie.
J'en profite pour envoyer un petit coucou à mes amis de Villefranche d'Albigeois, d'où était Jean Jaurès, et chez qui nous avons fait notre spectacle Jean Jaurès, justement. Alors, on écoute Jaurès par Jacques Brel et de Jacques Brel.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir.
Voilà, et c'est pas fini, tout à fait. On terminera l'émission avec Nadao.
Et Jaurès qui parlait, pas L'Incantada. Jaurès Brel, qui parlait flamand, les flamandes.
Tout à fait, oui.
Flamengans.
Les flamengans.
Voilà. Et la Belgique qui était française, justement, avec les Wallons. Et la Belgique, ça fait combien de temps que c'était après la guerre de 14? C'est toute, et la partition de la, voilà. Et alors, tu me poses pas la question, mais je vais te dire, on parlait de Jaurès, c'est important, mais on pourrait parler de Clémenceau aussi. Le Clémenceau, le grand homme qui a fait la victoire, soi-disant, de la guerre de 14, hein. Voilà. Et Clémenceau, il faut surtout savoir gagner la paix. Et malheureusement, si on a gagné la guerre, au prix de quel sacrifice? Il y a eu, dans l'Aveyron, il y avait 10 morts par jour. Alors, il y a un DVD de Yves Garrigue qui est très intéressant par rapport à ça. 10 morts par jour en Aveyron avec la guerre de 14. Et puis, malheureusement, on n'a pas su gagner la paix parce que, justement, si Hitler est arrivé au pouvoir, c'était tout ce que qui était marqué dans le traité de paix et tout ce qui est les Allemands qui étaient contraints et on les a rabaissés au-dessous de tout. Il fallait qu'ils règlent je sais plus combien, l'amende et tout ça.
Bon, on arrive au bout de l'émission, tu reviendras de toute façon, parce que c'est vachement intéressant, hein. Avec plaisir.
On peut parler d'histoire, on peut parler de langue, on peut parler...
Oui, donc on va se quitter sur un morceau de Nadao qui signifie Noël, c'est ça?
Oh, Koyoko, Nadao, et... Noël, Noubé, en Provençal.
Voilà. Oui, Navidad.
Voilà. Et Nadao, qui seront au Zénith de Pau, le 12 février, le vendredi et le samedi, où le Zénith est plein depuis 3 mois.
Voilà, c'est fini. On se quitte sur l'Incantada.
L'Incantado.
Do.
L'Incantado.
Okay.
Qui est une chanson qu'on retrouve maintenant dans tous les stades, et toutes les bandas reprennent
D'accord.
cette chanson.
Ben, je te remercie d'être venu.
Eh ben, pas des risques, Fontou.
D'être resté. Surtout.
Eh ben, resté.
On se retrouve très, très vite. Un grand merci à Léna pour sa beauté, sa technique. Et à très vite et bonne année à tous.
Et bon anno.
Ciao.
Patapim patapam, no sé d'on he sortido. No m'ha pas brigues piate, m'he perdut su pic, que la ham i la set. Patapim patapam, no sé so qui m'arribo. I xeis na de pietat, que em valo su camí, que camina tot dret. No sé palo su nom, ta jo quede encantado. Ta la ve de passaggio, que mi qui ha sit un matí a l'argüell. No sé pal lo sonem, ta jo quede encantado. No hi fas qui pensar, que la nuit el dia, el dia de la nuit. Jo tu estem que avís a viu, e dis de no, e dis adiu. Jo ja me Jamais prega o mini Dio, haro que plegarlo lui, de la glaze cap baixar, tamen di casso chi vuoi, e alle da un son costan, la 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 e la la le. La terra du seu tau com la periclado e tu t'ha capvirat a renunciar a mei no llamei com abans ni lo red de la neu ni lo verde la prado ni lo cando mainan ni la nadu surei que è curre los ans lo sei pallo sonu ta jo que l'he encantado e si nei pasta vuita d'uma que segui anirei parlar no sei parlo sonu ta jo que l'he encantado no m'acudis erei din casi que viscuts un que tapen juste un cabis à vue. Jamais prégat.